Bonjour tout le monde, bienvenue et merci d'avoir choisi mon podcast Parlons santé mentale. Et j'espère que vous allez bien. En tout cas, là, moi, je vais merveilleusement bien. Je m'appelle Francine Courchesne et je suis éclaireuse de réalité. Bon, pour tous ceux et celles pour qui c'est leur toute première fois parmi nous aujourd'hui, vous vous demandez sans doute c'est quoi une éclaireuse de réalité? Faire une petite histoire bien courte. Dans le fond, c'est bien simple. Moi, j'aide les gens à comprendre les réalités différentes. Je les aide à avoir une vision plus futée, plus juste, plus éclairée. Parce que je suis persuadée que si on est mieux renseigné, on est d'une meilleure écoute et par le fait même, on est mieux outillé pour mieux conseiller ces personnes qui vivent des défis de la vie. Et peut-être même que ça peut défaire certains préjugés. Qu'en pensez-vous? Ben c'est ça. Moi, je m'appelle Francine Courchesne et je suis éclaireuse de réalité. Pour vous donner un petit exemple, nous allons discuter aujourd'hui de l'anxiété. On va voir ensemble c'est quoi la différence entre l'angoisse, le stress, l'anxiété. Une dernière petite chose avant d'aller au vif du sujet. Si c'est pas encore fait, dépêchez-vous d'aller cliquer sur le bouton suivre. Ça se trouve juste en dessous du logo du balado. Comme ça, vous allez accéder à tous les épisodes et je vous le garantis, vous voulez être là, ça c'est sûr et certain. Bon. Et si on partait ça, ce sixième épisode-là, suivez-moi, c'est parti! Être stressé, ben ça nous arrive tous. C'est normal. Le stress, c'est une réaction de notre organisme face à une agression, un choc physique ou nerveux. C'est un mécanisme de défense. Sans ça, on serait fort probablement nonchalant, sans peur, sans crainte. Le stress nous aide, il nous stimule, nous motive. Un bon stress, bien géré, peut être bénéfique pour nous. Par exemple, lorsqu'on vient pour effectuer une tâche, notre niveau de performance est bien meilleur lorsqu'il y a une certaine dose de stress. Même que certaines personnes carburent au stress. Ils sont constamment à la recherche des sensations causées par le stress, comme avant une compétition, par exemple. Toutefois, il peut être très néfaste également s'il est mal géré. Un stress permanent devient mauvais. Il se traduit par des symptômes comme des difficultés à se concentrer, l'irritabilité, par exemple. Il peut même entraîner des troubles psychiques, physiques importants. Saviez-vous qu'il y a une étude qui a démontré que 26,2% des ados de 15 ans et plus vivent avec du stress de façon intense dans leur vie? Le groupe d'âge le plus atteint par le stress est celui des 35-45. Souvent, le stress va se faire ressentir beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Elles sont plus nombreuses aussi à vivre avec des troubles anxieux. Parmi les gens atteints d'un trouble anxieux, on dénombre seulement 36,9% des gens qui vont aller consulter un professionnel de la santé. Souvent, on utilise les termes stress, angoisse, anxiété de façon interchangeable pour décrire comment on se sent. Mais qu'en est-il vraiment? Quelle est la différence entre ces termes? Tout d'abord, je vais vous parler du stress, puis de l'anxiété et finalement de l'angoisse. Pour chacun de ces sujets, je vous parlerai des signes et des symptômes, je vous dirai quand les consulter et bien évidemment, je vous parlerai des traitements. Puis, je vous donnerai des endroits où aller vous référer en cas de crise. Alors, suivez-moi, c'est parti! Alors, le fameux stress. Comme je l'ai dit dans le fond, c'est une réponse psychologique qui est déclenchée par notre organisme lorsqu'on fait face à quelque chose qui nous perturbe, comme par exemple un bruit intense, un examen important, une exposé orale, une compétition sportive, un accouchement, un déménagement, une rupture, un accident, etc. Dans le fond, le stress est là pour nous protéger contre un éventuel danger. Et il nous permet aussi d'atteindre nos buts, nos objectifs. Bien évidemment, chaque personne va réagir différemment face au stress. Ce qui est important, c'est de savoir bien le gérer. Mais comment, vous me direz? Dans le fond, là, en ayant de bonnes habitudes de vie, en faisant du sport, en ayant une bonne alimentation, en évitant de consommer drogue et alcool, en évitant de consommer des stimulants comme la caféine, le chocolat par exemple, en dormant bien, en faisant aussi de la relaxation, de la détente, de la méditation et du yoga, et surtout en discutant avec vos proches de ce qui vous stresse. Il y a trois composantes au stress. De un, il y a la source. Deux, la réaction. Et l'attitude. Bon, la source. Dans le fond, c'est tous les stimuli, que ce soit au niveau physique, mental, social ou émotionnel, auxquels il faut s'ajuster. Ça peut être des stimulus d'ordre mineur, comme avoir un ticket, par exemple. Ou encore positif, comme la naissance d'un bébé ou un mariage. Ça peut être d'ordre important comme un déménagement ou encore exceptionnel comme un examen médical ou une opération. Ça peut être aussi constant comme avoir un horaire de travail bien trop chargé ou encore prévu comme un examen scolaire ou inattendu comme un accident par exemple. Cependant, le stress peut être d'ordre plus physiologique puis être causé par un événement comme la prise de médication ou ça peut être une blessure, un coup de chaleur ou un coup de froid. Parce que, dans le fond, notre organisme doit se modifier chimiquement pour réagir. La réaction du stress. Quand notre cerveau s'aperçoit que nous vivons un stress, immédiatement, notre corps produit des réactions physiologiques. Notre rythme cardiaque va augmenter, puis là, on va produire de l'adrénaline. Ça va faire en sorte que nous allons pouvoir réagir face à la situation de stress. Cependant, si la situation de stress dure plus longtemps que ça devrait, selon le bon jugement de notre cerveau, ça va entraîner des malaises physiques et psychologiques. Mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Là, je vais poursuivre avec la troisième et dernière composante, soit l'attitude. L'attitude. Tout le monde le sait, tout est une question de perception. L'intensité à laquelle nous allons réagir face à une situation va dépendre du message que notre cerveau va envoyer à nos glandes endocrines. Plus notre cerveau va croire que nous sommes en danger ou que la tâche à accomplir est bien trop exigeante ou trop contraignante, plus notre stress sera grand. Supposons que nous sommes en retard de quelques minutes pour aller au travail ou à un rendez-vous. Normalement, ça ne devrait pas nous causer de stress. Sauf que trop souvent, on va imaginer le pire. On va imaginer des situations de catastrophe où on est tellement focusé sur le fait qu'on doit absolument être donc bien ponctuel que c'est ça qui va nous stresser. Dans le fond, si on a une attitude négative ou encore si on a des attentes irréel, par exemple, ben notre niveau de stress va monter. Vaut peut-être mieux faire un pas de recul, respirer profondément, puis se dire que tout va bien aller. Les symptômes, les fameux symptômes, maintenant, ils sont vraiment très nombreux. Bien, il y a trois types de symptômes. De un, il y a les symptômes au niveau physique. Deux, émotionnels et mentaux. Et trois, comportemental. Au niveau physique, bien là, on peut avoir des tensions musculaires, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil, des problèmes d'appétit, des maux de tête, le vertige, le souffle court, de la fatigue, etc. Au niveau émotionnel et mental, bien là, on peut être agité, irritable, indécis, inquiet, on peut vivre un manque de joie, être mélancolique, une baisse de libido. On peut avoir de la difficulté à se concentrer, on va avoir une faible estime de soi, on peut vivre de l'anxiété. Au niveau comportemental, ben la perception de la réalité va être négative. On va être désorganisé. On va avoir de la difficulté avec nos relations. On va avoir tendance à s'isoler, aussi peut-être d'abuser de la télévision ou des réseaux sociaux. On va augmenter la consommation de drogue, alcool, sucre, caféine, nicotine, par exemple. On va éviter les situations trop exigeantes. Bon, c'est sûr que chaque personne, comme je l'ai dit, va réagir différemment face au stress selon sa personnalité, selon son vécu. Bien évidemment, on le sait, là, les enfants aussi, puis les ados aussi vivent du stress. Je l'ai dit tantôt, là, les ados, ils en vivent du stress, puis intense aussi. Mais il y a deux types de stress. Il y a le stress aigu et le stress chronique. Dans le cas d'un stress aigu, c'est simple, les symptômes vont être intenses, à un point tel là, de nuire temporairement à nos activités du quotidien. Souvent, ça va être après un traumatisme, comme la mort de quelqu'un, ou après un accident, ou une faillite personnelle, ou une faillite professionnelle, par exemple. Tandis que dans le cas d'un stress chronique, les symptômes sont permanents. Les personnes souffrant de stress chronique n'en sont pas toujours conscientes, ou elles pensent qu'il n'y a rien à faire. Elles peuvent aussi souffrir ponctuellement d'une crise de stress aiguë. Bon, ça, c'est le stress. Mais qu'en est-il au niveau de l'anxiété? Dans le fond, nous devenons anxieux lorsque nous anticipons une menace, contrairement au stress qui lui est présent lorsque nous sommes en danger. L'anxiété, c'est une émotion négative dans laquelle on ressent des symptômes physiques, comme par exemple le cœur qui bat vite, 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 la respiration qui va sembler difficile. Puis, s'ajoute à ça des pensées anxieuses, comme de l'inquiétude, de l'obsession, des doutes, des craintes. C'est une émotion que tout le monde vit. Normalement, ça ne va pas durer super longtemps. Cependant, ça peut devenir problématique lorsque notre réaction devient trop intense par rapport à ce qui devrait nous menacer. Ou si nos inquiétudes sont vraiment irréalistes, voire excessives. Certaines personnes vivent une détresse psychologique très intense lorsqu'ils sont anxieux. On parle d'un trouble anxieux lorsque l'anxiété est permanente. La personne atteinte par un tel trouble va avoir une peur bleue de tout ce qui est imprévu. Pour elle, là, ça va être impossible de se réjouir d'un événement futur, même si celui-ci va être positif. Elle va craindre le pire. Saviez-vous qu'il y a environ 2 à 5 % de la population qui serait atteinte d'un trouble anxieux? Là, il existe plusieurs troubles anxieux, comme par exemple la phobie, l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée, les troubles de panique, l'agoraphobie, par exemple. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des sujets que je vais aborder dans d'autres épisodes. Mais quels sont les signes et les symptômes? Tout d'abord, il y a trois types de symptômes. Il y a les symptômes physiques, les symptômes psychologiques et les symptômes cognitifs. Au niveau physique, il y a de la fatigue, le trouble du sommeil, il y a des maux de tête, des étourdissements, des vertiges, l'impression d'évanouissement imminent, des engourdissements ou des picotements, des troubles digestifs, de la nausée, de la transpiration excessive, des bouffées de chaleur ou des frissons, des tremblements, des palpitations cardiaques, de la diarrhée ou des inconforts abdominaux, de l'essoufflement, de la sensation d'étranglement, la pression sanguine va être élevée, des tremblements, des secousses musculaires, des serrements ou des douleurs à la poitrine. Et au niveau psychologique, on va avoir des sentiments d'inquiétude, des peurs, des malaises. On va avoir des sentiments de perte de contrôle. On va être irritable, en colère. On peut être triste ou agressif. Des sentiments de culpabilité. Puis on a peur de mourir. Au niveau cognitif, on va avoir des difficultés à se concentrer, des pensées incontrôlables. C'est bien beau tout ça, là. Mais comment je fais, moi, pour contrôler mon anxiété? Hein? C'est ce que vous vous demandez comme question. Bien, premièrement, là, lâchez prise. Faites un pas de recul. Prenez quelques bonnes respirations profondes, puis essayez de reprendre le contrôle de vos pensées. Pensez à autre chose. Arrêtez-vous un instant là pour être ici, là et maintenant. Là, vous pouvez nommer 5 à 10 choses que vous voyez autour de vous dans l'immédiat. Le clavier de l'ordinateur, je vois la caméra, mes écouteurs, je vois la calculatrice. Vous nommez des choses que vous voyez. Ça va vous permettre de revenir, de focusser sur le moment présent. Puis, ça va faire en sorte que ça va diminuer votre anxiété. Ramenez-vous aussi à aujourd'hui et maintenant. Dites, aujourd'hui, nous sommes telle date, il est telle heure, et en ce moment, je suis ici, à telle place. Là, vous vous dites que tout va bien aller, que vous êtes en sécurité. Comme je viens de dire, là, tout ça va faire diminuer l'anxiété. On va pouvoir être plus réaliste aussi. Deuxièmement, on va changer nos pensées négatives parce que là, on a tendance à broyer du noir lorsqu'on est anxieux. Une fois que nous sommes dans le moment présent, ici, là, maintenant, on est plus détendu. Donc là, c'est plus facile d'avoir des pensées positives. Là, une pensée positive, il n'y a pas de ne pas là-dedans. Tu sais, évitez d'ajouter seulement ne pas. Exemple, je ne vais pas mourir. Parce que là, notre cerveau, lui, il ne fait pas la distinction entre je vais mourir puis je ne vais pas mourir. Non, non, on met ça au positif. C'est-à-dire qu'on dit plutôt je suis en vie ou je reste en vie. Hein? On va s'imaginer dans la situation qui nous rend anxieux, mais on s'imagine que tout va bien. Là, on refait le processus jusqu'à ce qu'on se croit en le disant. Hein? On se répète ça va bien aller, je suis bonne, ça, il n'y a rien qui va se passer, tout va bien. Hein? Et on se le répète, on se le répète. Je prends l'avion, je m'assois dans le siège. Je vais être un petit peu nerveuse, donc je vais prendre des respirations profondes et le commandant, il va donner ses consignes, l'agent de bord va donner ses consignes et je vais écouter le petit film en avion. Et l'avion va atterrir. Je vais manger des peanuts dans l'avion. L'avion va atterrir. Je vais prendre ma valise. Je vais rentrer dans l'aéroport. Puis là, on répète ce processus-là. Hein? C'est une situation qu'on se répète. J'arrive en vie à Cuba. J'arrive en vie au Mexique. J'arrive en vie à Montréal. Et au début, on va sentir l'anxiété, mais plus on va le faire, plus on va respirer entre les fois ou est-ce qu'on va l'imaginer profondément, et plus on va se dire ça va bien aller, mais plus on va être détendu, et plus on va voir partir l'anxiété. Puis quand on va arriver au jour J, bien, on a juste à se remémorer cette visualisation-là. Prendre 3, 4, 5, 6 respirations profondes. Prendre le temps de le visualiser, que ça va bien aller. Troisièmement, là, on va éviter de repousser constamment ce qui nous rend anxieux. Faut s'exposer aux dix dangers. De manière graduelle, évidemment. Comme par exemple, là, pour faire préparer cet épisode-là, vu que je parlais du stress, de l'anxiété, fort probablement que mon subconscient y enregistrait ces mots-là, stress, anxiété, et j'ai repoussé constamment. Ça m'a pris un temps de dingue à faire cet épisode-là parce que je repoussais constamment ce qui me rendait soi-disant anxieuse ou que c'était soi-disant un danger. À chaque fois, il fallait que je me motive, que je me dise, ben non, je vais le finir, je vais finir par le finir. Et je l'ai fait. Mais c'est petite étape, petite bouchée. Ça va faire en sorte que le processus dans notre cerveau, là, qu'on se répète que cette situation-là est donc bien dangereuse pour nous autres, bien, à force de se mettre en danger de manière graduellement, bien, on s'aperçoit là, que finalement, il n'y en a pas de danger. Hein? On est confortable, on est de plus en plus confortable. Puis là, c'est super important de célébrer chacune des petites victoires. Supposons que vous êtes anxieux à l'idée d'aller dans une foule. Bien, célébrez le fait que vous êtes rendu jusqu'au centre d'achat. Hein? Yé, je suis contente, hein? J'ai pris mon auto, je suis allée au centre d'achat. Il y a beaucoup de monde dans un centre d'achat. Ça peut être très anxieux, anxiogène pour quelqu'un qui a peur d'aller dans des foules. Mais là, il faut vous donner un objectif avec une date puis une heure précise à laquelle vous allez entrer dans le centre d'achat pour la prochaine fois. Puis là, une fois que vous allez être rendu à la date prévue, à l'heure prévue, puis que vous rentrez dans le centre d'achat, là, c'est important aussi de célébrer. Il faut se féliciter d'avoir enfin rentré dans le centre d'achat, ne serait-ce pour une minute seulement. Allez vous acheter un paquet de gomme, hein? Ou un palette de chocolat, ou n'importe quoi pour célébrer le fait que vous êtes rentré dans le centre d'achat. Et donnez-vous un autre objectif, une autre date avec une autre heure puis un temps aussi à l'exposition de votre dit danger. Entre les deux tentatives, là, ben, faut faire de la visualisation. Hein? Imaginez que tout se passe bien. Bon, c'est sûr que c'est bien plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Parfois, pour y parvenir, certaines personnes auront besoin d'une thérapie ou encore d'un cours de croissance personnelle afin d'augmenter l'estime de soi, augmenter la confiance en soi ou d'acquérir des connaissances ou en frais de visualisation ou acquérir des meilleures techniques de respiration profonde, par exemple. Bon, ça, c'est l'anxiété. Hein? Mais là, le dernier bloc de cet épisode, on va parler de l'angoisse. Dans le fond, là, tout comme l'anxiété, l'angoisse, c'est le fait d'anticiper un danger imminent et irréel. Dans le cas de l'anxiété, les symptômes physiques sont pas toujours présents, mais pour l'angoisse, c'est toujours le cas. Puis les symptômes sont différents. Souvent, une personne angoissée va s'en sentir oppressée. Dans le cas de l'angoisse, les symptômes sont souvent confondus à ceux d'une crise d'angine. C'est la pression thoracique, le gène respiratoire, une accélération du rythme cardiaque, la sensation d'une boule dans la gorge ou dans l'estomac. Tu sais, des fois, là, on se dit, ah, j'ai quelque chose, là, de pris dans la gorge, là. J'ai beau avaler, c'est pris, là. Ça, c'est un signe d'angoisse. Mais comment on fait pour gérer son angoisse? Bien évidemment, là, hein, on se calme. On se calme le pompon. Mais quand on fait une crise d'angoisse aiguë, moi, là, en tout cas, moi, j'ai fait une crise d'angoisse puis je me suis rendue à l'hôpital parce que je pensais que je faisais une crise de cœur. Tu sais, j'avais le bras gauche engourdi, j'avais une pression au niveau thoraxique. Fait que je me suis rendue à l'hôpital. Une fois que on a vu que c'était pas une crise cardiaque, là, ils m'ont passé des tests, puis ça, on s'est aperçu que c'était de l'angoisse. Bon, une fois que t'es revenu à la maison, là, on prend un petit quelques minutes, là, puis on se dit, mais qu'est-ce qui me hante comme ça? On prend des grandes respirations, hein? On prend le temps d'arrêter puis de respirer. Ça, là, c'est la base. On ferme les yeux, on prend des bonnes respirations profondes, puis on se questionne sur qu'est-ce qui me fait souffrir? Comment ça? Ça m'angoisse. Puis là, on inscrit ça. On inscrit, puis on essaie de regarder les émotions. Hein? Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? On essaie d'identifier pour essayer de voir, OK, ça, cette situation-là, ça m'angoisse. On va essayer de travailler là-dessus. On va essayer de travailler sur les émotions négatives. On va essayer, comme je disais tantôt, de s'exposer. Hein, de faire diminuer progressivement hein, le stress, l'angoisse qui nous a mené à... Le stress, plutôt, l'anxiété, ce qui nous a mené à une angoisse, tu sais. Tout est une question de perception. Comme je l'ai dit tantôt, souvent, notre cerveau, là, il va imaginer le pire. On se ramène ici, là, maintenant. On évite de stresser pour des tout et des rien, puis on se calme. On respire, on se dit que ça va bien aller. On essaie de changer nos pensées. C'est comme je viens de le dire, c'est super facile à dire, mais très difficile à faire. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un ami, pour les besoins de la cause, je vais l'appeler Sarah. Sarah, elle est aux prises avec le trouble d'anxiété, avec des paniques. Elle fait des crises de panique, puis elle est très anxieuse. Il est arrivé une situation un peu avant la COVID, où est-ce que mon amie Sarah, elle était en crise anxieuse avec panique, OK? Ce qui a fait déclencher ça, c'est que mon amie Marie-Ève, elle a un petit garçon, le hic, qui lui a un trouble du lien d'attachement. Puis les enfants avec le trouble du lien d'attachement, souvent, ils vont exagérer les situations, ils vont inventer des situations. Souvent, quand ils sont anxieux, puis ils vont dire des propos sexuels nowhere, comme ça, pas rapport, puis ils peuvent être très provocateurs ou très imaginatifs, puis ils vont inventer des affaires menteurs, je vais le dire comme ça, le menteur, mais dans leur tête, eux autres, c'est ce qui s'est passé réellement parce qu'ils savent pas vraiment ce qui s'est passé. Fait qu'ils vont inventer n'importe quoi, puis des fois, ça va avoir un lien avec la sexualité. Là, je vous explique aussi que Marie-Ève, mon amie, elle a une intervenante pour l'aider avec son enfant qui a un TDAH, un trouble d'opposition et un trouble du lien d'attachement. Fait qu'on a besoin, dans ce temps-là, d'avoir un intervenant pour venir nous aider à gérer des crises, à mieux contrôler notre enfant aussi, puis à baisser son anxiété. Parce que les enfants avec le trouble du lien d'attachement, c'est des enfants qui sont anxieux. Bon, là, Loïc, le petit garçon de Marie-Ève, a rencontré son intervenante, parce qu'on fait ça de façon régulière aux 2 semaines, ou au mois, ou aux semaines, tout dépendant si l'enfant est souvent en crise ou si ça va mieux. Et là, il rencontre son intervenante et à son intervenante, il dit qu'il s'est fait garder par son oncle Eric, le conjoint de Sarah, et que Eric a pris sa douche avec Loïc et qu'il a vu le pénis de Eric. Mais Loïc, c'est un petit garçon de 5 ans. À ce moment-là, Loïc, il avait 5 ans. Et puis, là, Marie-Ève, quand elle a entendu ça de son petit garçon, dire ça à l'intervenante, elle a paniqué, puis elle s'est dit, ben non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, Eric, il a gardé Loïc, mais il a jamais vu, Loïc n'a jamais vu le pénis d'Eric, puis voyons, c'est n'importe quoi. Effectivement, c'était n'importe quoi. Oui, Eric, il a gardé Loïc, mais, genre, Eric a des enfants, puis il va même pas prendre sa douche avec ses propres enfants parce qu'il est pas à l'aise avec ça. Fait qu'il est encore bien moins avec Loïc, là. Alors, c'est pas vrai. Pourquoi Loïc a dit ça à l'intervenante? Parce que sûrement que la question de l'intervenante est venue faire popper de l'anxiété à Loïc. Et Loïc, il a dit n'importe quoi. Parce que dans sa tête, c'est ce qui s'est passé, mais c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'il a sûrement pris son bain chez Eric. Peut-être que Loïc aurait aimé ça, que Eric soit là pour l'accompagner dans la salle de bain. Puis, pour je sais pas quelle raison. Mais Eric, lui, il a dit non, non, t'es assez grand, tu vas te laver toute seule. Cet épisode-là du bain a sûrement créé de l'anxiété chez Loïc. Et c'est ce qui a repopé proprement à l'entrevue avec son intervenant. Mais là, mon amie Marie-Ève, elle a paniqué avec ça et elle a raconté ça à Sarah qui fait une crise, qui est anxieuse et qui fait des crises de panique. Sarah, comme je le dis, c'est la conjointe d'Eric. Et là, tout de suite, quand Marie-Ève, elle a dit ça à Sarah, que son garçon, il avait dit qu'il avait vu le pénis de Eric, le mari de Sarah. Tout de suite, Sarah, là, elle est devenue anxieuse. Dans sa tête, elle a imaginé le pire. Bon, là, la DPJ va débarquer ici. La DPJ va dire que mon mari, c'est un pédophile. Mon mari va aller en prison. Je te déteste, Marie-Ève, je veux plus te voir, je veux plus voir ton garçon ici. Elle était anxieuse. Et moi, j'ai assisté à cette scène-là. Et là, elle cherchait l'air. Elle était agitée de tous bords, de côtés. Elle marchait beaucoup. Ses bras bougeaient beaucoup. Elle cherchait son air. Elle s'est mise à pleurer. Et dans sa tête, là, Et ses paroles, toutes étaient en boucle. Mon mari, c'est pas un pédophile, la DPJ va débarquer ici, ils vont penser que c'est un pédophile, ils vont le mettre en prison. Et là, à un moment donné, elle, elle est capable de se contrôler. Elle commence à savoir qu'elle fait une crise d'anxiété avec panique. Elle va prendre de l'air dehors. Elle shake de tout part, de tout côté. Elle va fumer. Mais moi, je lui disais sans arrêt, mais non, tu le sais, Loïc, il est comme ma fille, il va exagérer, il va dire des choses qui n'ont pas de sens, mais les intervenantes, ils le savent. Ils savent comment il est le petit. Il n'y a personne qui va débarquer ici. J'essayais de la rassurer. Mais plus j'essayais de la rassurer, plus je l'angoissais, plus je rendais la situation anxiogène pour mon amie Sarah. Ce que j'aurais dû faire, et ça, on en a parlé par après, bon, elle a fini par se calmer, par être allée fumer une cigarette, être allée prendre des respirations, elle est revenue, elle tremblait encore, elle pleurait encore, mais avec quelques minutes, ça a pris quelques bonnes minutes, là, une demi-heure, 45 minutes avant qu'elle se revienne totalement au calme. Et c'est que quelques jours, même quelques semaines plus tard, quand j'ai voulu, dans le fond, revenir sur la situation, parce que je savais que j'étais pour faire un épisode éventuellement sur le stress puis l'angoisse. Et là, je lui ai dit, ben comment j'aurais dû intervenir avec toi afin de t'aider à t'apaiser, parce que j'ai remarqué qu'en essayant de te calmer, en essayant de te dire, ben non, tout va bien aller, voyons, tu le sais qu'ils sont comme ça, ces enfants-là, etc., etc. Elle me dit ce qu'il aurait fallu faire, et c'est un petit peu ce qu'elle a fait, c'est d'aller changer de les idées. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est, je dis pas, tu le sais, ces enfants-là, tout le temps, d'essayer de la rassurer, il aurait fallu que je lui change les idées. Genre, on s'en va-tu magasiner? Je sais pas, n'importe quoi d'autre, mais de lui changer de l'idée. Et après, quand l'anxiété, elle aurait descendu, la crise de panique aurait descendu en elle, une fois que les idées auraient été changées, ça aurait été le lendemain ou le surlendemain, lui dire, l'autre fois, je t'ai sentie anxieuse, le fait que t'as fait une crise de panique, mais, et là, lui mentionner plus tard, quand elle est plus calme, quand la situation anxiogène n'est plus là, le danger n'est plus là, quand mon amie Marie-Ève et son petit garçon Loïc auraient été partis, là, ça aurait été là qu'on aurait pu lui nommer que tout va bien aller, que tu expliquer une fois de plus que ces enfants-là, c'est ce qu'ils font, puis que. Mais pas sur le coup. Ça, c'est mon exemple de quelqu'un qui fait une crise d'anxiété avec panique, puis comment on aurait dû réagir, comment on aurait dû intervenir. Puis, tu sais, notre réflexe, évidemment, c'est justement de faire en sorte que de la rassurer. Et des fois, ça devient plus anxiogène pour cette personne-là que d'autres choses. Alors, c'est ça. Faut attendre. Avant faut leur changer d'idée, puis après ça, les rassurer. Quelqu'un qui vit avec des troubles anxieux, ça peut se développer en dépression. Si l'anxiété n'est pas traitée, si la personne n'est pas prise en charge, hein, comme je l'ai dit tantôt, il faut des fois, pour certaines personnes, une psychothérapie, une thérapie ou un cours de croissance personnelle pour venir nous aider avec à venir défaire notre anxiété, avoir des trucs sur la méditation, la relaxation, la détente, avoir une meilleure estime, une meilleure confiance en soi pour faire diminuer l'anxiété, le stress. Puis des fois, ben il y en a des personnes qui sont obligées de prendre de la médication. C'est bien important. Bien important, quand est-ce qu'il faut aller consulter? Quand que tu vois là, que ça devient trop, que ça devient T'es tout le temps comme ça, anxieux, tout le temps stressé. Quand tu vois que ça vient nuire à ta vie au quotidien, je pense que ça fait le tour. Bon, pas trop stressé par ce qu'on vient de jaser. En tout cas, pour vrai, ça a été un réel plaisir pour moi de vous partager cette superbe expérience. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout ce sixième épisode de Parlons santé mentale. Afin de vous assurer d'être au rendez-vous pour le prochain épisode. Il n'y a qu'une petite chose que vous avez à faire. Si ce n'est pas déjà fait, c'est d'aller cliquer sur le petit bouton suivre. Ça se trouve juste en bas du logo du balado. Dans le prochain épisode, justement, on va parler de la dépression. Vous sentez épuisé, fatigué? Est-ce que dépression, burn-out, c'est la même chose? Pour le savoir, là, soyez au rendez-vous dans 2 semaines parce qu'on va en jaser. Soit le samedi, le 1er mai, toujours à 13h. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. Je vous aime. Ciao!